Monsieur X, on parle donc d'un terminal qui permettrait de discuter avec des ordinateurs assez puissants dans un contexte de guerre froide. Mitterrand n'étant pas bien vu ni à Moscou ni à Washington, je suppose qu'il y a eu quelques escarmouches de guerre technologique par le biais du Minitel.
Honnêtement, bon, elles étaient plutôt limitées. L'un des avantages sur les exports manqués est que nous attirions nettement moins de pirates étrangers. Déjà, nous avions la sécurité que nos numéros courts, les 11, 36, 15 et consorts, n'étaient pas disponibles depuis l'étranger. Transpac était interconnecté avec d'autres réseaux européens, mais à l'époque, tout le monde faisait attention puisque leur numéro d'appel apparaissait sur les factures. Non, on n'est pas au Far West comme chez les cow-boys états-uniens. Les États-Unis, dont l'ambassade aurait acquis quelques centaines de Minitel, soit deux fois plus que de pièces dans leurs locaux à deux pas de l'Élysée. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Mais sinon, non. Notre technologie nationale, très peu exportée, nous protégeait. En tout cas, la panne géante du réseau Transpac le 18 juin 1985 était un simple encombrement dû au succès de ses services surfacturés du 3615. On avait 1 million de Minitel en service en France en 1985, imaginez. Choix cornélien pour l'État, qui s'était résolu à appliquer le plan rouge épervier téléphonique. Limiter la distribution de Minitel pendant 2 mois, le temps d'agrandir les serveurs centraux du réseau Transpac, de corriger des bugs gênants. Un bête DDoS, une attaque distribuée de déni de service totalement involontaire.
Cela a pourtant fait un foin extraordinaire à l'époque. Je me souviens même que mon émission a été interrompue. Radio FMR a basculé en édition spéciale alors qu'on ne faisait pas les gros titres quand les bureaux de poste étaient encombrés de retraités une fois l'épisode de Derrick Quotidien terminé.
Oui, bon, la presse de l'époque s'était enflammée sur cet accident et cherchait un coupable du côté de l'anti-France. Elle exigeait un coupable à guillotiner, et c'était tout à fait logique quand on se rappelle que le Minitel était soudain devenu une source très importante de revenus pour ces journaux. On a bien eu des actes terroristes comme les indépendantistes bretons de Plumeur-Baudou qui avaient tenté de saboter une liaison Transpac par satellite vers Saint-Pierre-et-Miquelon en balançant un Kouign-Amann dans la célèbre antenne Cornet. Ou encore le groupe Action Directe qui avait tenté de lancer un service de Minitel rose et rouge sur le palier 3617 pour se financer. En fait, le groupe terroriste qui a fait le plus de mal au Minitel a peut-être été le Clodo, le groupe terroriste de la région de Toulouse quand ils ont fait brûler le centre informatique de la préfecture, mais personne n'a entendu parler d'eux depuis décembre 1983.
Ah oui, le Clodo. On a une excellente émission sur les néoludites.
Donc vous voyez de quoi je parle. Non, le vrai danger que nos services avaient parfaitement identifié ne venait pas de groupes d'adultes au noir dessin, emplis d'une sombre envie de détruire l'ordre établi pour le triomphe de l'anti-France. Non, loin de là. Le danger venait de notre propre descendance, de cette marmaille devenue délinquante faute de savoir s'occuper, de ces gamins turbulents qui regardent trop les films d'action américains et la pornographie, de cette jeunesse en manque d'une éducation civique bien sentie faute d'une bonne guerre. Et ils étaient motivés par un terminal gratuit à l'acquisition, mais payant à l'usage. Reprenons cette adolescence pubère.
Allez, abrégez le suspens. L'émission ne dure qu'une heure.
Cette bande de branleurs était littéralement drogué aux messageries roses. Or, le 3615 était très cher. Il était possible d'accéder à un service kiosque soit par le nom du service, soit par un numéro de service Télétel, un numéro technique à 9 chiffres, jamais communiqué, mais qui marchait aussi sur le palier 3614. Il s'agissait bien souvent d'accès de service pour des opérateurs de service Minitel, afin de ne pas exploser leur propre facture téléphonique personnelle quand ils télétravaillaient. Des petits malins constituaient des annuaires confidentiels glanés par des informateurs infiltrés, des petites listes qu'ils revendaient assez cher contre un bandana dédicacé par le chanteur anarchiste Renaud. Pour d'autres, si les paliers 3614 et 3613 étaient déjà un mieux, de grandes entreprises souhaitaient ne pas passer par l'écran Télétel et avoir leur numéro dédié gratuit sur la mode des numéros verts, ce qui leur assurait une plus grande confidentialité. Et c'est ainsi que furent créées des lignes téléphoniques Minitel Vert en 3605 puis 4 chiffres, où il y avait pas mal d'entreprises. Et ces réseaux étaient parfaitement protégés puisqu'il fallait connaître le numéro de téléphone exact, donc on pouvait dire qu'ils étaient déjà chiffrés.
Excusez-moi, monsieur X, mais de ce que j'ai cru comprendre en participant à CPU, une sécurité chiffrée, c'est pas ça et je m'y connais en serrure.
Ça, c'est votre opinion. Laissez faire les professionnels de la profession sur ce sujet sensible. Bon, je vous le concède, des petits malins dont je tairai le nom s'amusaient à composer tous les numéros de téléphone disponibles. Tomber parfois sur des numéros d'entreprises internationales pour des terminaux Minitel 1B, et en bidouillant, on pouvait tomber sur le chef d'administration d'un puissant ordinateur Unix, où il était possible de se créer une adresse e-mail et de discuter sur Internet. Cette négligence coupable de multinationales américaines, je peux le révéler aujourd'hui car nous avions enquêté à l'époque, était en fait une manœuvre pour intéresser les jeunes les plus prometteurs aux standards américains Internet et ainsi faire croire que le système souverain Transpac était bien inférieur.
Je vous trouve bien au courant sur le sujet. C'est d'ailleurs pour cela que je vous ai invité. Vous n'auriez pas piraté, vous aussi ?
Non, j'étais en service commandé, mais passons à notre sujet vite. Hein. Vous êtes gentil, vous ne garderez pas votre remarque très désobligeante à l'antenne, hein, je vous prie, merci. Si vous voulez parler de piratage, parlons alors d'un délinquant qui fut le premier condamné pour piratage informatique par la justice française.
Ah oui, et qui donc ?
Un nègre fin qui s'appelle Laurent Chemla, qui à l'âge de 22 ans, aurait pu finir à perpète à Fleury-Mérogis. Il scannait les numéros des services possibles en 3613 avec un Thomson TO7 branché sur un Minitel. Il tentait ainsi de casser le chiffrement des services informatiques de grosses sociétés en devinant ce numéro code secret. Il était à l'époque informaticien dans une société de services Minitel qui proposait des échanges entre écoles primaires où les élèves pouvaient échanger les copies corrigées de devoirs surveillés. En tant que professionnel de l'informatique, il savait qu'il commettait là un acte délictueux. En l'occurrence, il est tombé sur un service où chacun pouvait s'enregistrer pour y créer sa boîte aux lettres de type email, et il l'a partagé avec d'autres criminels numériques comme lui. Mais il n'a pas été suffisamment prudent pour couvrir ses traces et a été attrapé par la patrouille.
Que lui est-il arrivé une fois que le commissaire Maigret lui a mis la main au collet ?
Il a été traîné devant les tribunaux, bien sûr, mais en 1985, la seule loi contre la criminalité informatique punit la duplication illicite de logiciels informatiques, nullement son usage, même par infraction. Laurent Chemla, le premier pirate informatique français condamné, a été embastillé pour vol d'énergie.
Non, sans rire. Tout ça pour ça ?
Eh oui. Depuis, la jurisprudence Bluetooth a changé la donne.
Qu'est devenu ce Laurent Chemla ?
Il est ressorti assez vite, au bout de 2 jours. Durant l'enquête, Laurent Chemla a été mis sur table d'écoute par la cellule de renseignement du palais de l'Élysée. Un de ses pseudonymes, Mazarine, avait immédiatement mis en alerte le Spider-Sense de Charles Hernu, qui était en charge de ses écoutes. Il a donc transmis son dossier aux différents conseillers de l'Élysée, dont la célèbre astrologue Elisabeth Tessier, consultante directe de Mitterrand. En établissant son thème astral, elle en a conclu qu'il allait construire d'immenses avancées informatiques comme le gestionnaire de nom de domaine Gandhi, qu'il allait devenir romancier d'aventure avec son fameux roman Confession d'un voleur et qu'il allait emporter une saison du meilleur pâtissier de France sur M6.
Ah oui, Confession d'un voleur, le OSS 117 du troisième millénaire. Alors, c'est lui ?
Eh oui. Comme Elisabeth Tessier conseillait personnellement François Mitterrand, le président a gracié ce garçon turbulent, mais inoffensif, qui avait surtout fait un péché de jeunesse. Depuis, il n'a jamais été repris devant les tribunaux, sinon pour la constitution d'une liste d'opposants politiques pour une officine. Une autre légende dans le service veut que Lodi Chemla, toujours grâce à un Minitel branché à un TO7, était entré dans les ordinateurs de la marine britannique. Les marins de sa très gracieuse majesté en avaient réveillé Margaret Thatcher une demi-heure trop tôt, ce qui l'avait un petit peu énervé, la dame de fer. L'anecdote aurait fait glousser François Mitterrand, ce qui aurait valu au coupable donc la grâce présidentielle.
Ah ah ah, le futur OSS 117 qui enfonce 007.
Et sur le terrain du jeu de la guerre du futur. Voilà qui aurait bien fait rire le grand timonier de Latché. Un autre piratage célèbre a constitué l'une des fortunes de l'Internet encore.
Ah bon ? Qui ?
Un opérateur de messagerie Freepon, Xavier Niel. Et avant le Minitel Rose, Xavier Niel avait déjà été poursuivi pour revente sous le manteau de décodeurs pirates de Canal+. À l'époque, il s'était fait prendre parce que le décodeur Sister, même piraté, était très volumineux, donc se cachait très mal sous un manteau, même au marché aux puces de l'église de la Madeleine. Ensuite, il a piraté la liste des numéros de Radiocom 2000, qui à l'époque comportait l'ensemble du cabinet ministériel et des patrons du CAC 40. Quand on commence dans la délinquance, on n'a aucune chance de s'en repentir.
Et qu'est-ce qu'il a fait, ce Xavier Niel ?
Lui aussi a branché un ordinateur, mais sur une batterie de Minitel. À l'époque, France Télécom, les anciens PTT, était le service exclusif pour avoir l'annuaire, et même pour une très grande entreprise, il était impossible d'obtenir le fichier complet. Xavier Niel a donc programmé son ordinateur pour que ses Minitel composent le 3611, l'annuaire électronique, et en ne restant que sur l'annuaire électronique que pendant 3 minutes, donc pendant la période gratuite, il a récupéré le maximum d'informations d'abonnés au téléphone.
Il a donc lui en falloir des coups de fil.
Ou avec un ordinateur, c'est facile, surtout que lui, il continue à travailler pendant la nuit. Avec cette immense base de données volée à France Télécom, il lance en 1996 son 3617 ANU, qui proposait la recherche inversée, donc retrouver l'abonné en partant de son numéro de téléphone. Le 3617 étant le palier facturé au prix fort, il proposait un service qui était habituellement réservé qu'aux forces de l'ordre, mais désormais disponible à toutes les entreprises et à tous les particuliers. Et pour Niel, ce service était bien plus rentable que les 36-15 porno, non seulement au coût par minute, mais surtout parce qu'il n'avait pas besoin d'animatrice pour ce service, qu'il ubérisait avec un simple PC. France Télécom était absolument furieux, bien sûr, et du coup leurs ingénieurs truffèrent les réponses de leurs annuaires téléphoniques avec de faux numéros, des abonnés inexistants, que Niel repérait. Un jeu du chat et de la souris non sans conséquence, car il réduisait la qualité des réponses servies aux particuliers légitimes. Cette guerre informatique entre le monde des télécoms et ce trublion issu de l'informatique a fortement dégradé l'image du Minitel. Outre le DDoS, le déni distribué de service sur le 3611 qu'il squattait allègrement, son service d'annuaire inversé était littéralement catastrophique pour les institutions nationales. Bien des policiers faisaient leur beurre à proposer à des particuliers l'accès à l'annuaire inversé de la police. Ou encore Jean-Yves Lafesse pour ses canulars téléphoniques. Il en était réduit à appeler en masquant son numéro d'appel. Les démarcheurs téléphoniques aussi étaient impactés et ont toujours eu une vengeance envers Xavier Niel. Celui-ci se moqua d'eux en montant un service d'accès Internet par téléphone appelé Free.
Ah, mais c'est pour ça que le nom me dit quelque chose.
Propriétaire de Free, de Free Mobile, du journal Le Monde, fondateur de l'école 42 et de l'incubateur à start-up Station F, à l'origine de toute fortune, il y a un crime, comme l'a si bien dit Franck Colombo. Xavier Niel est dans le top 10 français et il a bâti sa fortune en commençant avec un Minitel. Je vous laisse en conclure ce que vous en voulez.